Bonjour, c'est Jean-Marie Marcaux sur Radio Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
Certains prennent du plaisir à faire le mal, à faire du mal. Peuvent-ils y trouver le bonheur ?
Eh bien, chère Hélène, ma chère pourvoyeuse de questions très pertinentes, eh bien, si certains prennent du plaisir à faire du mal, est-ce que c'est par sadisme, est-ce que c'est par cruauté ? Eh bien, la psychanalyse et Freud, notamment, nous disaient en effet que nous étions quelquefois poussés par des pulsions de mort. Bien par une espèce de mal radical tel que Derrida pouvait aussi le présenter. Je tiens à séparer peut-être la notion de physiologie de la notion de psychologie finalement. Physiologiquement, on sait aujourd'hui, et justement grâce à l'imagerie médicale et grâce aux neurosciences, à toutes ces sciences sociales et psychologiques qui nous permettent de comprendre que si certaines personnes font du mal, c'est par manque d'empathie, en fait. L'empathie étant une fonction naturelle que nous avons, qui nous permet, par l'imitation, par le mimétisme et la compréhension des émotions des autres, d'arriver à mieux connaître et mieux comprendre et mieux réguler nos propres émotions. Et donc, physiologiquement, en effet, il y a une zone du cerveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est vraiment spécialisée dans l'empathie. Et si cette zone du cerveau ne s'est pas développé de façon congénitale ou à cause d'une maladie particulière, eh bien, ça va amener chez l'individu ce manque d'empathie, le manque de compréhension de la douleur de l'autre, notamment de la tristesse de l'autre, de la colère de l'autre. Et l'individu, lui, va suivre son chemin. Il va être sensible à ses propres émotions ou aux émotions de ses proches, par exemple, mais pas auprès d'individus qu'il ne connaît pas directement. Ce qui peut empêcher aussi cette zone de se développer, ce sont des traumatismes. Et donc des traumatismes de violence perçus pendant l'enfance notamment, peuvent amener de développement de cette zone particulière et amener ensuite l'individu à manquer d'empathie dans sa vie de tous les jours. Bon, voilà. Donc si on écarte de cette question, voilà, qui je ne suis pas spécialiste médical de ces notions, je vais plutôt m'intéresser sur... des personnes qui physiologiquement n'ont pas de raison de manquer d'empathie, mais qui peuvent éventuellement à un moment donné entrer dans un plaisir de faire le mal ou de faire du mal. Alors moi, je vais m'appuyer une fois sur Marshall Rosenberg, sur la communication non violente, puisqu'il nous dit, voilà, que Rosenberg nous dit que finalement, on peut avoir du plaisir à faire du mal comme on peut avoir du plaisir à faire le bien. Lui-même, pendant son enfance, il avait remarqué quelque chose d'assez étrange. Il vivait dans le nord des États-Unis, près des Grands Lacs, du côté de Détroit, Chicago. Et il avait remarqué, lors des meutes, notamment des meutes raciales qui avaient eu lieu dans sa ville, que certaines personnes prenaient du plaisir à détruire, prenaient du plaisir à faire du mal, à frapper. Et ça l'avait assez touché, puisqu'il retrouvait le même plaisir chez son oncle, qui s'occupait de sa grand-mère, et qui, tous les jours, allait passer du temps avec elle, s'occuper d'elle, en lui donnant énormément d'amour et d'affection. Et donc, il s'est rendu compte, en effet, qu'on pouvait avoir aussi bien du plaisir à faire du mal qu'à faire du bien. Et il a essayé de comprendre, voilà, quelle était l'origine de ce plaisir de la violence. C'est ce qui l'a amené à développer la communication non violente, cette approche qui permet de comprendre combien l'empathie, combien l'intérêt à l'autre, l'écoute de l'autre, peuvent faire du bien, et notamment comment satisfaire nos différents besoins. Alors, Rosenberg, en résumé, il a compris que nous avions deux types de comportements. Un comportement qui était au service de la vie, un comportement qui était fait de bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, un comportement qui était à l'écoute des besoins profonds de chaque personne qui prend le temps. Et ce comportement, il a appelé ça le comportement girafe, parce que c'est l'animal qui a le plus gros cœur. Et donc, ça voulait dire aussi d'écouter son cœur et dans la relation à l'autre, aussi d'intégrer aussi cette notion de cœur et d'amour dans la relation. Et puis, il s'est rendu compte aussi qu'on avait aussi un autre type de comportement qui était celui-ci, par contre, au service de la mort, c'est-à-dire plutôt au service de la destruction de la vie, au service de satisfaction à très court terme de besoins, et qui, lui, avait un impact sur la relation, d'abord sur la relation à nous-mêmes, et ensuite sur la relation aux autres. Cette destruction de la relation, bien sûr, ne peut pas apporter du bonheur au bout du compte. Alors, pour revenir à la question qui était si certains prennent du plaisir à faire du mal, est-ce qu'ils peuvent y trouver du bonheur ? Je ne le crois pas, non. Je pense qu'ils peuvent y trouver une satisfaction à court terme. Rosenberg disait, par exemple, en cas de conflit ou de problème, est-ce que vous préférez avoir raison ou être heureux ? Je pense qu'ils peuvent avoir le plaisir d'avoir raison, mais à long terme, ne pas être heureux, puisque cette relation va être détruite, va être touché, va être diminué par cette attitude qui met la distance avec l'autre. Nous sommes des êtres qui avons besoin de la relation à l'autre, s'isoler par méchanceté, c'est-à-dire par la volonté en effet de créer du mal, de voir les autres souffrir. Il peut y avoir pour certains un plaisir de voir souffrir. C'est quelque chose qui est quand même de l'ordre de déficience en empathie, parce que nous sommes des êtres naturellement empathiques. Je vais cette fois-ci non pas partager un conte à la fin de cette émission, mais partager un texte de Muriel Glorius, qui, très influencé, aussi très touché comme moi par la communication non violente, s'est posé la question justement sur l'enfant. Est-ce que nous sommes nés naturellement bons ou naturellement mal? C'est une question philosophique qui a déjà été largement traitée par Rousseau à l'époque. Mais voilà, c'est comme ça que nous allons pouvoir avancer ensemble.
Est-ce que le bonheur est inné? Les bébés, les enfants recherchent-ils le bonheur?
Alors Myriam, encore une de tes jolies questions sur les enfants, sur l'enfance. Et c'est vrai qu'on se connaît à travers les enfants, puisque nos enfants sont dans la même classe, dans la même école, bien sûr. Est-ce que le bonheur est inné? Je ne vais pas répondre en tant que spécialiste, je ne suis pas pédopsychiatre, mais je suis papa et grand-père aussi. Et je suis aussi observateur depuis longtemps des comportements. J'ai toujours été passionné par les bébés. Par les miens et puis aussi par les enfants en général, avec toujours ce feeling particulier entre les enfants et moi qui fait qu'on a vraiment un courant qui passe, peut-être parce que je me reconnecte beaucoup plus facilement que beaucoup d'autres adultes à mon enfant intérieur, au petit garçon que j'étais. Et du coup, quand je suis avec eux, j'ai le même âge qu'eux. C'est pour ça que j'aime bien leur préparer toujours des surprises, des ateliers, parler de bonheur avec eux, parler de philosophie avec eux. Bref, les enfants, oui, les enfants, je pense que le bonheur est inné, je le pense. Alors, le texte de Muriel Glorius va encore en parler tout à l'heure, mais je pense, oui, qu'il est bien inné, parce que les enfants sont sensibles au bonheur les plus simples. Ils ont d'abord un cerveau reptilien qui fonctionne très très bien, avant même que se développe la finesse des émotions, et puis ensuite la réflexion. Donc, ils ont d'abord le bonheur de la survie, c'est-à-dire la satisfaction des besoins les plus simples, et donc ils sont dans la découverte des plaisirs, des sens. Donc on voit, en observant un bébé, en effet, qu'il est d'abord joyeux, il est d'abord en recherche, il est d'abord en compréhension de ce qui se passe autour de lui. Et donc je pense que c'est une forme de recherche du bonheur, que de comprendre le monde qui est autour de nous et de construire notre propre modèle du monde. Ensuite, lorsque son cerveau limbique va se développer, il va découvrir les émotions. Et la première émotion d'un bébé, c'est quand même la joie, c'est-à-dire c'est quand même la sérénité. Un bébé va toujours rechercher, bien sûr, être calme, propre, bien entouré, et recevoir beaucoup d'amour pour pouvoir grandir. Et donc, on parle ensuite d'émotions racines. Je pense que la joie est d'abord l'émotion première, et ensuite arrivent les autres émotions avec la peur, Ensuite, la colère, qui peut être une colère, on va dire, simple, parce qu'on n'obtient pas ce que l'on désire, donc une colère existentielle aussi, pour dire aux autres, hey, je suis là, j'existe. Mais qui peut être aussi une colère due à une peur, lorsqu'on ne peut pas fuir. Un enfant n'a pas les capacités de fuir, donc quand il ne peut pas fuir et qu'il a peur, eh bien, il va se mettre en colère pour lutter, simplement, c'est sa façon à lui, très animale, de pouvoir aussi répondre à cette peur par la lutte. Et de la même façon qu'il est très rare d'avoir des bébés tristes, parce qu'en général, voilà, ils ont réussi à exprimer par la colère ce qui n'allait pas. Nous sommes souvent tristes, soit parce qu'on ne trouve pas de sens à notre vie, qu'on n'a pas l'impression d'avoir des choix et qu'on est un peu balayé par les événements négatifs, soit quelquefois parce qu'on ne s'autorise pas à être en colère. Alors, ce n'est pas le cas des bébés. Ils s'autorisent tout à fait à être en colère, quelle que soit l'heure. D'ailleurs, l'heure du jour et de la nuit, on est bien payé pour le savoir, on peut dire, en tant que parent. Mais en tout cas, voilà, il y a très peu de tristesse. Et si un bébé ressent ou exprime de la tristesse, je pense que c'est important de s'y intéresser très très tôt et de consulter. Voilà ce que je peux dire sur cette notion où je peux parler vraiment en tant que père et en tant que grand-père. Oui, pour moi, le bonheur est inné. C'est quelque chose que nous recherchons tout naturellement. Et nous cherchons simplement à être heureux. Le premier bonheur est un bonheur hédonique, la satisfaction de nos cinq sens et le plaisir de la survie. Et le deuxième va être un bonheur eudémonique dans une recherche de sens et d'effort. Et on voit qu'en effet, les bébés sont aussi capables de cette recherche de bonheur. Merci encore pour ta question, Myriam. Le conte du jour n'est pas un conte, mais un texte de Muriel Glorius, que j'apprécie tout particulièrement et que je partage à 100%. Voici ce texte. La vie m'a fait le cadeau de découvrir au moins deux grandes croyances possibles, deux hypothèses de base posées possiblement au fondement de notre humanité. Première hypothèse, le petit humain, à sa naissance, est un pervers polymorphe, l'excite M. Sigmund Freud. Il est mauvais par nature et ignore la réalité du bien et du mal. Il s'agit de la lui enseigner depuis l'extérieur par des référentiels externes posés en valeur et vérité absolue, érigés par ceux qui savent et qui dirigent l'ignorant par l'usage légitime de la force et pour son bien. Parents, patron, chef, etc. Il en résulte chez les êtres une très faible connaissance de soi et une estime de soi fragile fondée sur les avis et les regards extérieurs. Il en découle un monde de punition et de récompense générateur de rapports de force, de compétition et des réactions à plus ou moins long terme de soumission ou de rébellion. Ça, c'est le monde d'où je viens depuis mon enfance. Seconde hypothèse, le petit humain aime naturellement contribuer à la vie, à la sienne et à celle des autres. Il s'agit simplement de soutenir et de faire fleurir chez l'enfant cette compétence naturelle en accompagnant son référentiel interne et sa vérité relative, afin que chaque individu apprenne à prendre la responsabilité de son propre bien-être dans la compréhension des lois de l'interdépendance. Il en résulte une profonde connaissance de soi et un amour de soi solide, fondé sur sa propre vérité intérieure et relative. En découle un monde de respect, des différences et de coopération possible. Voilà le monde que je découvre depuis que je soutiens les valeurs de la communication non violente enseignées par Marshall Rosenberg. L'important n'est pas que l'une de ces croyances soit vraie, même si les neurosciences affectives et sociales valident de plus en plus la seconde hypothèse, en voyant valser l'ancienne vision d'un monde où l'homme serait vu comme un loup pour l'homme. L'important, selon moi, désormais, c'est de se demander : dans quel monde, moi, je veux vivre ? quel monde j'aimerais voir s'épanouir pour les enfants et les générations à venir? Et laquelle de ces croyances j'ai envie d'alimenter, de soutenir et de voir fructifier? Et même si nous étions faits de ces deux hypothèses corrélées, dans l'ambivalence, pourquoi pas? Je peux encore me demander quelle partie en moi, autour de moi, je choisis de faire fleurir. Au-delà du « c'est bien ou mal, vrai ou faux », j'aime cette liberté de choisir la croyance qui me rend la vie plus belle. Et vous, c'est quoi votre préférence ? Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en question. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
Nobody knows but me.